Bruxelles, un partenaire au grand cœur. Bienvenue sur le rendez-vous du mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. Alors, j'espère que tu profites toujours aussi bien de tes vacances, que le soleil brille et que tu as le temps de te reposer. Aujourd'hui, nous allons parler d'une instance de l'enseignement catholique, l'UCEL. Alors, tout le monde sait à peu près de quoi on parle, mais pour mieux comprendre l'UCEL, pour mieux appréhender comment le chef d'établissement peut travailler avec l'UCEL, eh bien, j'ai fait appel à François Defieux. Et oui, encore un François. Il est secrétaire général des services nationaux de l'UCEL, mais je m'arrête de parler pour faire place à notre conversation. Bonne écoute. Bonjour François.
Bonjour François. Merci de m'accueillir.
Eh bien, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire comment on devient François Defieux ? Defieux.
Alors, ben, comment je suis arrivé secrétaire général de l'UCEL? Alors d'abord, je suis de formation initiale, je suis enseignant d'éducation physique. J'ai commencé ma carrière dans le Maine-et-Loire, et puis petit à petit, j'ai pris des responsabilités dans le domaine de la formation, en lien avec l'Institut de formation des professeurs d'éducation physique, à l'IFEPSA, à Angers. Et là, a débuté un petit peu ma carrière dans le domaine de la formation, ce qui m'a amené à prendre des responsabilités dans le domaine de l'animation et la formation à l'UCEL pour proposer des formations continues aux enseignants d'éducation physique. J'étais en lien également avec donc l'Institut de formation à Angers. Et donc j'avais la responsabilité aussi de positionner les stagiaires en éducation physique. Petit à petit, la formation se développant, et notamment dans le domaine de l'éducation à la santé, et plus particulièrement des premiers secours, que j'ai développé dans les Pays de la Loire, donc c'est la formation PSC1, formation élémentaire PSC1, qui était devenue dans les années 2007 une obligation pour tous les collégiens. J'ai donc développé ce dispositif de formation, et petit à petit on m'a demandé de le faire à l'échelle nationale, et c'est pour ça que à partir de 2011, je suis arrivé à l'UCEL National pour développer l'organisme de formation qui a d'abord commencé par le développement des formations au premier secours, sachant que c'est un dispositif qui est très structuré et qui dépend du ministère de l'Intérieur, qui nécessite des formateurs de formateurs, une équipe pédagogique nationale en lien avec le ministère de l'Intérieur. Voilà. Et puis, au fil des années, cet organisme de formation s'est développé. On est aujourd'hui un organisme certifié Calliope, donc du ministère du Travail et de la Formation Professionnelle Continue. Et voilà, et depuis un an, on m'a demandé d'assurer l'intérim en tant que secrétaire général. Donc voilà, mes fonctions prendront fin en septembre. Et puis d'ailleurs, je ferai valoir mes droits à la retraite dans les mêmes temps. Voilà.
Très bien.
Voilà pour mon parcours.
Merci. On va aller maintenant plutôt dans la compréhension de l'UCEL, parce que c'est vrai que comme ça, des fois, moi, j'ai du mal à expliquer ce que c'est que l'UCEL. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les différents services, les commissions de l'UCEL, etc., et un peu quelles sont les missions principales de l'UCEL?
Alors, l'UCEL, c'est déjà la fédération sportive éducative de l'enseignement catholique. Et ces missions tournent autour de trois piliers, animer, former et fédérer. Concernant le mot fédéré, on comprend tout de suite qu'il s'agit d'une fédération sportive et donc qu'autour de cette capacité, de cette fédération-là, eh bien, on développe des championnats. Et comme on est structuré en comités départementaux, en territoires qui représentent les régions administratives et à l'échelle nationale, on voit qu'il y a des championnats à tous les échelons de la fédération. Et sur le plan sportif, on a environ 57 championnats nationaux. Qui regroupe 27 disciplines sportives. Voilà. Dans le domaine de l'animation, on est là pour soutenir et coordonner l'animation éducative et institutionnelle au sein des établissements scolaires. Donc ça touche les établissements scolaires à la fois du premier degré et du second degré. Et là, on propose un certain nombre d'animations tout au long de l'année. Avec et là, l'année olympique nous permettra de proposer un certain nombre d'animations qui vont permettre aux établissements scolaires qui adhéreront au projet eh bien de programmer de l'activité physique tout au long de l'année en lien avec les Jeux olympiques. Ce qui donnera l'occasion également aux jeunes hein, de relever des défis que Luxel proposera dans le cadre des Jeux Olympiques, ce qui donnera l'occasion aussi aux jeunes de pouvoir participer à des interviews d'athlètes de haut niveau, à la fois dans le domaine des Jeux Olympiques, mais aussi des Jeux Paralympiques. Ils seront, comme on l'a déjà fait cette année, dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, participer à des interviews d'athlètes. Et ça, c'est très intéressant et c'est très galvanisant pour les jeunes qui sont vraiment très intéressés de pouvoir en direct poser des questions à des athlètes de haut niveau. Donc, on a des animations qui sont proposées, comme je le disais, et dès la rentrée de septembre avec ma rentrée avec Luxel, où on propose bien aux enseignants des activités et on a des documents pédagogiques qu'on distribue aux chefs d'établissement qui sont demandeurs, hein, aux enseignants du premier degré et du second degré demandeurs. Il y a aussi la Journée nationale du sport scolaire qui concerne davantage les établissements scolaires du second degré. Et puis tout au long de l'année, on a des animations comme la semaine des appels l'association de parents d'élèves autour du sport santé, la semaine 30 minutes d'activité physique par jour, la semaine du savoir rouler à vélo, voilà, et la journée olympique également. Alors pour toutes ces animations, ce qui est important pour un chef d'établissement qui nous écoute, c'est de savoir que Luxel diffuse des documents pédagogiques de qualité.
Oui, je confirme.
Et donc les enseignants sont en mesure de télécharger des guides pédagogiques qui leur permettent eh bien, de monter des séquences, des cycles d'enseignement. Sont des outils pédagogiques vraiment clés en main et à vraiment à suivre le déroulé pédagogique. Et voilà, et ça a un écho très très favorable. Alors c'est vrai que on met l'accent surtout sur l'enseignement du premier degré, l'enseignement de l'éducation physique en premier degré, car on sait, et c'est une demande des enseignants, la formation en EPS, des enseignants du premier degré n'est pas, on va dire, suffisante en formation initiale. Donc, par cette animation que nous proposons, eh bien, on permet à des enseignants du premier degré qui ne sont pas des spécialistes de l'éducation physique de mettre en place des parcours de santé, des parcours éducatif et sportif. Et voilà, donc c'est un des piliers qui est en plein développement. Il nous manque, je pense, un outil informatique qui nous permet véritablement d'avoir un retour des participations des établissements scolaires. On sait globalement qu'on a des centaines d'établissements qui participent à nos animations, ça correspond à des milliers d'élèves, mais les chiffres précis, ça reste encore du bouche à oreille que l'on récolte en questionnant j'y viendrai tout à l'heure, nos responsables des comités et des territoires. Donc on a effectivement des retours, mais ce ne sont pas des retours qui sont suffisamment précis pour nous à l'heure actuelle, alors que dans le domaine sportif, bon, on a des chiffres qui sont clairs, puisqu'on a 1 300 000 adhérents, avec une baisse qui a eu durant les années Covid, mais ça tourne à peu près entre 1 200 000 et 1 300 000 d'adhérents, avec environ 250 000 licenciés pour les jeunes, et souvent dans le second degré, qui pratiquent la compétition. Donc voilà, l'animation éducative institutionnelle, c'est ce que je viens de vous présenter. Et puis on a aussi le troisième pilier, la formation, puisque Luxel a un organisme de formation qui est certifié par le ministère de l'Intérieur, ministère du Travail et de la Formation continue. Voilà la certification Qualiopi que beaucoup d'organismes de formation connaissent.
Et ça permet
Et donc,
de sur quel thème?
alors voilà, on a quatre axes de formation. La formation en EPS, bien sûr, dans le premier degré. La formation en EPS dans le second degré. Les premiers secours, qui est une grosse structure, parce qu'on forme environ 55 000 élèves pour l'instant. Ça monte, on va dire, en puissance tous les ans. Et on devrait atteindre cette année 60 000 élèves de formés au PSC1, sachant que l'objectif, c'est de former une classe d'âge en collège pour que chaque collégien sorte avec le diplôme PSC1. Voilà. Et le quatrième axe, c'est tout ce qui concerne la prévention et l'éducation à la santé. Et tout ça, sans relater un petit peu l'historique de tout ça, mais il y a un lien entre les premiers secours et puis la progression qu'on a faite pour développer la prévention des comportements à risque, notamment liés à la consommation de psychotropes, faire les liens avec le premier secours et être, on va dire, beaucoup plus pertinent auprès des collégiens qui suivent des formations au premier secours. On leur parle davantage de cela que de l'arrêt cardiaque de la personne âgée, qui les concerne un peu moins. Et pour autant, les conséquences peuvent être aussi dramatiques. Et je pense que malheureusement, on a tous vécu ça dans sa carrière d'enseignant ou de chef d'établissement. Et on est amené aussi à mettre en place des formations dans le domaine de la prévention de la violence et du harcèlement. Notamment parce que dans les comportements à risque, les stagiaires, les enseignants, puisqu'on forme des enseignants et des personnels de l'enseignement catholique, personnel éducatif, beaucoup nous avaient demandé de faire le lien entre les comportements à risque et puis l'utilisation des écrans, du numérique, etc. Et donc progressivement, on en est arrivé à proposer des formations dans le domaine de la prévention. J'insiste bien sur ce mot prévention de la violence et du harcèlement. On est dans le cadre éducatif, qui s'inscrit bien dans celui de l'enseignement catholique. Mais on n'est pas sur. Là, on fait appel aussi à une autre structure, mais on n'est pas dans le cadre des formations dites curatives, c'est-à-dire on n'est pas sur le versant traitement des problèmes quand ceux-ci sont avérés au sein d'un établissement scolaire. Et pour cela, on travaille en partenariat avec l'Association nationale des psychologues de l'enseignement catholique. Voilà. Notamment sur des interventions sur les méthodes de préoccupation partagée, hein, pour intervenir en cas de violence et de harcèlement. Enfin, ce sont des techniques qui sont développées par et des interventions qui sont développées par les psychologues. Donc voilà un petit peu brossé assez rapidement les quatre axes de formation. Bon, bah, qui fonctionne assez bien, puisque alors, globalement, sur l'ensemble des formations, avec une nette importance des premiers secours, il y a sur l'ensemble du territoire environ 500 formations.
D'accord.
Au
Oui, ça fait déjà.
niveau national, c'est une soixantaine. Mais le niveau national, c'est surtout pour former des formateurs, en fait, hein.
Oui.
Et après, au niveau territorial, ce sont des formations d'enseignants, hein, qui sont déployées, pareil, sur les quatre axes.
Donc on a bien compris. Donc là, il y a animé, formé, fédéré. Hein, donc les missions principales, donc c'est organiser bien sûr des championnats, ça, on en entend souvent parler, proposer des formations et proposer des animations pour tous, que ce soit le premier ou le second degré. Tout cela, ça demande bien sûr une organisation. Hein, donc je suppose il y a une structure nationale, régionale, départementale. Comment ça s'organise un petit peu tout ça? Qu'en
Alors,
est-il par exemple aussi des pays outre-mer?
au niveau national, nous avons trois commissions nationales permanentes. L'une dans le domaine du sport, qu'on appelle la CNAS, la Commission nationale d'animation sportive. Ensuite, la CNAI, Commission nationale d'animation institutionnelle. Et la CNF, la Commission nationale de la formation. Donc, ce sont trois commissions nationales qui réunissent ce qu'on appelle des délégués territoriaux, c'est-à-dire qu'au sein de chaque territoire, il y a des délégués qui sont nommés par le territoire pour représenter le territoire à la commission nationale qui les correspond, donc à l'une des trois commissions. Et donc on a deux délégués territoriaux par commission nationale. Voilà, donc après on multiplie par le nombre de territoires, par 12, et on obtient un effectif. Et ces délégués territoriaux sont issus des comités, où là, au sein des comités, on a des référents dans chacune des commissions. Alors, ça, c'est la théorie. La pratique, c'est que j'étais en train d'expliquer qu'on avait un fonctionnement qui se déclinait du national au territoire et au comité à partir de trois commissions, hein, où il y avait des représentants au niveau des commissions nationales, des représentants des territoires, et au niveau des territoires, des représentants des comités, hein, pour alimenter en personnes ressources ces trois commissions. Qui se réunissent 3 4 fois dans l'année, donc de façon, on va dire, plus formelle, ce qui n'empêche pas effectivement un travail très important en dehors de ces commissions, de la part de ces bénévoles qui doivent produire ou réfléchir sur les thématiques qui sont à la fois réfléchies au sein de la commission, mais quelquefois qui sont proposées par les élus. Parce qu'il y a un aller-retour qui se fait entre les commissions, avec les présidents de commission et nos responsables, nos salariés responsables au niveau national, pour que ces commissions travaillent en cohérence avec le projet éducatif de Luxem. Voilà. Au niveau de la structure nationale, donc on a trois commissions, mais on a aussi des permanents. Donc on aura, parce qu'en fait on est en restructuration aussi, un directeur de l'organisme de formation dès la rentrée de septembre. On a et donc qui pilotera tout le service de la formation, constitué d'un certain nombre de salariés permanents. Et on a aussi un directeur sportif national, donc qui pilote lui la commission nationale d'animation sportive. et un délégué national à l'animation éducative et institutionnelle qui lui aussi pilote la commission CNAI, Commission nationale d'animation institutionnelle. Et le directeur de l'organisme de formation, lui, pilote la Commission nationale de la formation. Voilà. Pour fonctionner, nous avons, de façon structurée, nous avons sur le plan sportif, au-delà des commissions, nous avons des directeurs territoriaux sur le plan sportif, hein, et des directeurs de comité. Voilà, donc ce qui facilite l'organisation des championnats dans le domaine sportif. Au niveau de l'animation éducative institutionnelle et de la formation, sur ce binôme animation-formation, nous avons des permanents hein, qui sont salariés de Luxel National à mi-temps et qui sont mis à disposition des territoires pour cette double mission d'animation et de formation, ce qu'on appelle des coordinateurs territoriaux. Et ce sont véritablement des fers de lance dans ce domaine-là, au niveau de l'animation et de la formation. Donc, ils sont très proches des directeurs, on va dire, sportifs de chaque territoire et comité.
Et alors en Outre-mer, c'est le même principe, c'est
Alors,
les auditrices.
oui, l'outre-mer, c'est intéressant. Alors, nous avons des comités en outre-mer. On a le comité de Guadeloupe, le comité Martinique, comité Guyane, comité de la Réunion, et puis très récemment, Wallis et Futuna. Bon, c'est un petit peu loin, et voilà, tout ça demande eh bien davantage peut-être de présence ou de lien avec le national pour faire avancer. Mais bon, Wallis et Futuna et La Réunion, c'est très très récent. Donc on est là véritablement en construction. Il y a sur Antilles et Guyane, il y a aussi un territoire. Voilà, avec une présidente de territoire, puisque en fait, toute le fonctionnement de Luxel hein, est régi par la loi 1900. Hein. Donc voilà, donc toutes nos structures fonctionnent un petit peu de la même façon avec un bureau et dans chaque territoire et comité. Après, effectivement, tous les projets, en fonction des personnes ressources, n'ont pas le même accueil en Outre-mer, mais c'est aussi, je dirais, la même chose dans certains de nos comités en métropole, parce que pour faire vivre un petit peu toute l'activité Uxelles, il faut des personnes ressources. Et là, en comparaison de l'enseignement public, on n'a pas les mêmes moyens humains, ce qui rend effectivement la difficile tâche d'accomplir un petit peu tous les projets que Luxel National peut proposer.
Oui, d'ailleurs, c'est intéressant et c'est important de le souligner. Alors, on a entendu parler qu'il y avait des permanents, qu'il y avait des revues, qu'il y avait des. Alors, tout ça demande de l'argent. D'où vient cet argent?
Alors, on a un financement de l'éducation nationale, on a un financement du ministère des Sports. Et on a aussi, bien sûr, ce qui est évident, les cotisations ou les adhésions. Hein, on fusionne un peu les deux mots pour nous, des parents d'élèves, hein, donc des cotisations qui viennent des établissements scolaires, qui remontent. Alors, sachant que, par respect du principe de subsidiarité, ce sont les comités qui fixent un petit peu les cotisations et les cotisations des élèves, qui varient en premier degré de quelquefois moins de 2 euros à 4 euros par élève, et dans le second degré, ça peut varier de 4 à 7 euros. Ensuite, après, il y a une part qui remonte un petit peu au territoire et au national. Voilà. Quant aux subventions qui sont du ministère de l'Éducation nationale, on est aux alentours de 600 000 euros. Et du ministère des Sports via l'Agence nationale du sport pour une enveloppe, on va dire, nationale, ça tourne autour de 158 000 euros. Voilà. Que dire de plus sur le financement? Bon, après, on a le financement, effectivement, des formations. Mmh. Mais l'animation institutionnelle repose
uniquement
sur le scope global, hein, bien sûr. Mmh.
Voilà. Okay. Et le chef d'établissement peut participer, puisque comme c'est un mode associatif, il y a forcément donc un bureau, mais il y a aussi donc une AG, et donc en participant Exactement. À cette AG, on peut aussi participer aux décisions.
Le corps des chefs d'établissement est représenté à tous les échelons en fait de la fédération, tant au niveau des comités, des territoires, que du national, et ce sont souvent d'ailleurs des chefs d'établissement qui prennent la responsabilité de la présidence. Mmh. C'est souvent le cas. C'est pas général, mais c'est souvent le cas, et c'est une bonne chose. Très bonne chose. Il y a des représentants aussi, comme c'est une association, des représentants de toutes les structures de l'enseignement catholique, et donc du directeur diocésain, des représentants des parents d'élèves, des organismes de gestion, etc. Et des syndicats, enfin,
Oui, les syndicats et puis les
de maître, les organisations professionnelles. Voilà, je cherche.
Comment voyez-vous le rôle de l'UCSEL évoluer dans les prochaines années?
Alors, le rôle de l'UCSEL, c'est quand même d'être, je commencerai par ça, d'être au service des établissements scolaires. Voilà. Bon. Être au service des établissements scolaires, c'est d'être de plus en plus en lien avec les chefs d'établissement. Et là, on a un gros travail à faire dans la communication. Parce que tant dans l'animation que dans la formation, peut-être moins dans le sportif, mais le retour que l'on a, c'est souvent « Ah, on ne savait pas que l'UCSEL proposait ça. Telle chose, voilà. » Et ça, c'est vraiment à développer, parce que nous ne sommes pas représentés sur l'ensemble du territoire. Nous avons 66 comités. Voilà, donc on est moins, je dirais, représenté que l'association de parents d'élèves qui, elle, est présente dans tous les départements, les académies et dans tous les établissements scolaires. Donc l'idéal pour nous, ça serait d'avoir un référent UCSEL. Alors ça se fait, hein, mais c'est très en marge. Hein. On a des représentants UCSEL dans le premier degré, mais pas partout. Je crois qu'en centre Val-de-Loire, c'est le cas, dans le premier degré. Alors bien sûr, après, dans le second degré, je ne veux pas minimiser l'importance, mais on a les professeurs d'éducation physique. Donc, de fait, ils sont en lien avec l'UCSEL. Donc, voilà. Mais dans le premier degré, tous les établissements scolaires n'adhérant pas à l'UCSEL, on n'a pas forcément de contact et on a des retours comme quoi les gens sont étonnés. Et c'est pareil quand ils suivent des formations, parce que nos formations sont diffusées via, on va dire, la plateforme Formiris, puisque l'UCSEL est reconnu par Formiris. Et donc, les enseignants du premier et du second degré qui viennent en formation, eh bien, quelquefois sont étonnés parce qu'on en profite pour leur dire ce que c'est que l'UCSEL, ce que fait l'UCSEL, les outils pédagogiques et les autres formations que nous proposons. Et on a des retours du style, ah, on n'est pas au courant, c'est intéressant, etc. Bon. Donc ça, c'est un axe de développement qui est important. On se rend compte aussi, parce qu'on suit l'actualité et on est guidé par l'actualité du ministère de l'Éducation nationale et du ministère des Sports. Donc on doit puisqu'on est financé aussi par ces deux ministères, on se doit de suivre aussi les orientations qui nous sont précisées. Il y a des textes officiels, etc. Mmh. Et on participe aussi aux différentes instances, ministère des sports, via l'ANS, le comité olympique et paralympique, voilà, ouais, toutes ces structures. Mmh. Bon. Donc voilà, on est à la fois au service des établissements scolaires, mais aussi au service des ministères qui donnent leurs orientations, mmh. et notamment les orientations les plus importantes pour les années à venir, c'est quand même la santé des élèves, au sens où l'Organisation mondiale de la santé le définit, à savoir sur la santé physique, certes, mais mentale, sociale, psychologique, etc. Pour ça qu'on développe aussi dans le cadre de nos formations des formations sur les techniques psychocorporelles de façon très large, qui s'inspire beaucoup de techniques à la fois de relaxation, de sophrologie, etc.
Ok. Très bien. Mais, écoutez, un grand merci pour toutes ces informations. Alors, moi, je pense que j'ai mieux cerné en fait des choses, hein, sur l'organisation de Luxel, hein, avec ses différents services, ses commissions, ses missions, hein, donc et puis sur les activités qui sont proposées, sur les formations, sur bien sûr les activités sportives. Le chef d'établissement, j'ai bien compris aussi qu'il pouvait s'impliquer, mais que Luxel était à son service, c'est-à-dire que on peut ou non, on a la liberté, hein, de suivre les propositions qui sont faites par Luxel. Et puis, bah écoutez, merci encore pour cet éclairage. J'espère que ça va éclairer aussi les auditeurs. Où est-ce qu'on peut retrouver Luxel? Je pense que c'est sur le site. Mmh. Hein, donc c'est luxel.org. Oui,
sur notre site, oui, Excel.org. Je rajouterais pour terminer, ouais, que les chefs d'établissement ont un rôle important pour nous. Ils ont le choix, effectivement, d'adhérer ou pas au projet de Luxel, mais pour ceux qui le souhaitent, ils ont aussi cette possibilité d'orienter peut-être les activités de Luxel en fonction de ce que vit l'élève au sein de leur établissement et des besoins que eux sont plus à même quelquefois d'identifier. Et ça, c'est très important. Nous avons besoin des chefs d'établissement, nous avons besoin de collaborer aussi avec les associations de parents d'élèves, et voilà, donc
on peut faire remonter des informations sur nos propres besoins.
L'avenir de Luxel, c'est quand même davantage de communiquer avec justement les chefs d'établissement, directeurs diocésains aussi, pour lesquels nos coordinateurs territoriaux font remonter un petit peu le résultat de leur action dans les différents diocèses. Hein. Donc, mmh. ils sont en relation avec les directeurs diocésains. Voilà. Et moi, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler de Luxel. Et puis on reste encore une fois à votre écoute et si besoin à reconduire un petit peu ce genre d'échange.
Pas de problème. Un grand merci encore et bonne journée.
Merci François, au revoir.
Un grand merci pour ton écoute. Je suis François Jourdain et chef d'établissement d'une école et formateur. On se retrouve tous les mercredis pour partager nos astuces, nos expériences et rencontrer des personnes inspirantes. Tu souhaites recevoir une fois par mois un texte ou un document que j'ai créé sur des sujets divers, abonne-toi à ma liste de diffusion. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode ou sur mon site. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des chefs d'établissement, parce que gérer une école c'est bien, mais partager c'est mieux et ça rend heureux.